France Inter.
Bienvenue dans l'émission Au livre, etc. Aujourd'hui, nous verrons comment la littérature peut devenir un acte d'archéologie en sondant les silences qui hantent les familles et l'histoire.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, Au livre, etc. Lilia Hassel.
Nous recevrons d'abord l'écrivaine belge Violaine Lison pour son récit « Lequel de nous portera l'autre » publié aux éditions Esperluette. Tout commence par la découverte des carnets de tranchées d'un brancardier de la Première Guerre mondiale, Léonce Delaunoy. L'autrice, après une longue enquête, découvre que ses écrits ont été largement censurés par l'ami qui les a récupérés. L'omission visait à masquer non seulement la colère de Léonce contre la guerre, mais aussi et surtout son amour intense pour un autre soldat. Violaine Lison nous propose donc un récit polyphonique pour redonner corps et voix à cette parole effacée, cherchant à trouver, je cite, « la beauté dans l'immonde ». Et puis nous accueillerons Laurent Mauvignier, lauréat du prix Goncourt 2025 pour La Maison Vide, publié aux éditions de Minuit. Ce roman déploie une fresque familiale sur quatre générations, tissée à partir d'allusions et de non-dits. Le point de départ de l'enquête, c'est l'énigme de Marguerite, sa grand-mère, dont le visage a été effacé de toutes les photographies de famille, lacérées, découpées, griffonnées. Laurent Mauvignier interroge le déterminisme social, mais aussi la violence que la guerre, le patriarcat et l'humiliation infligent aux femmes, un mal qui se transmet de génération en génération. Deux livres aujourd'hui donc qui nous rappellent l'importance de déchiffrer les silences pour comprendre comment le passé continue de peser sur nos vies. Vous écoutez Au livre, etc. C'est parti.
Au livre, etc.
Violaine Lison, Laurent Mauvignier, bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Vos deux livres sont nés de la découverte de carnets, de photos qui ont été coupées, amputées, effacées. Et vous avez comblé les trous par l'imagination. Est-ce qu'on écrit d'abord pour réparer un effacement ou pour accepter qu'il restera toujours une part d'irréparable, Violaine Lison?
Peut-être un peu des deux. En tout cas, moi, j'ai bien aimé le fait qu'il manque des choses. Ça permet justement de rentrer dans l'imaginaire et dans quelque chose qu'on n'a pas. Et en même temps, comme ça raconte l'histoire d'un... Je reprends l'histoire d'un brancardier, d'un soldat Léonce qui a été tué le 15 octobre 1918. Il y a aussi une volonté de réparer, en fait, ce qu'on lui a retranché. La parole, la vie, quoi. Et donc, ce livre, il tente de faire ça, en tout cas.
Laurent Mauvignier, vous avez cherché à réparer ?
Non, je ne peux pas dire réparer, parce que ce qui a motivé le livre, de toute façon, c'est, j'allais dire, les choses sont arrivées, je ne peux rien y faire. Donc, je peux juste essayer de vivre avec en les comprenant un petit peu mieux. Moi, c'est vrai que c'est toutes les images de ma grand-mère ou les récits que j'ai pu entendre, c'est vraiment lié à l'enfance. Donc, c'est des choses que je porte, dont je suis dépositaire depuis que je suis tout gamin. Et ce qui fait que j'ai plutôt besoin pas forcément de réparer, mais plutôt de me délester de quelque chose, de l'inquiétude que m'avaient laissé ces récits qui étaient peut-être trop forts. Et puis peut-être trop présent pour le coup. Et évidemment, quand il y a des récits trop présents, ils laissent en creux des vides encore plus immenses.
Mais est-ce que ça vous a permis de comprendre mieux, ou est-ce que ça vous a fait vous poser de nouvelles questions ?
Les deux, c'est sûr, ça ouvre. Dès qu'on approche de quelque chose, ça ouvre forcément de nouvelles questions. Mais en même temps, aujourd'hui, j'ai l'impression, malgré tout, même si quand même c'est quand même un roman d'imagination quand même en très grande partie, pour la plus grande partie, et malgré tout, j'ai quand même l'impression aujourd'hui d'être l'héritier de quelque chose, de pas être simplement né comme ça de vagues histoires. Il y a un avant moi, et j'ai l'impression que mon histoire, elle commence avec ces histoires qui m'ont précédé, et je le ressens un peu plus. En fait, c'est moins abstrait. Il y a quelque chose qui est devenu plus charnel, plus concret.
Vous évoquez au début du livre vos motivations souterraines. J'aime bien l'expression. Les raisons qui vous ont poussé à écrire La Maison Vide. Vous écrivez avoir cherché à comprendre le suicide de votre père, à savoir, je cite, « ce qui pousse un homme comme lui à mettre fin à ses jours, comme si tout, depuis sa naissance, l'avait programmé, comme si aucun hasard, ni coup du sort, n'y était pour rien, mais que tout était le résultat d'une sorte de logique mathématique mise en place, silencieuse et implacable, depuis avant sa naissance, avec celle de sa mère Marguerite, ou même avant avec Jules, son grand-père, ou avec sa grand-mère Marie-Ernestine. » Vous parlez de logique mathématique. Est-ce que ça vous rassure qu'il y ait une logique? Ou au contraire, est-ce que ça renvoie à une forme de fatalité ou voire de fatalisme?
Non, c'est vrai que je préfère la question d'une logique mathématique parce que je le pense un peu comme quelque chose de structurel, en fait. C'est-à-dire que les anecdotes qui mènent à ça sont pas très importantes, au fond. Moi, je raconte celle-ci, mais j'aurais pu en inventer d'autres. Et d'ailleurs, je vois bien dans les rencontres que je peux faire en librairie, par exemple, le nombre de fois où j'entends des gens qui me disent « Mais votre histoire, je sais pas si c'est vraiment votre histoire, mais c'est aussi la mienne. » Et pourtant, tout le monde n'a pas une arrière-grand-mère musicienne ou quoi que ce soit. C'est pas la question. La question, c'est ce qui fait que d'une génération à l'autre, on passe de l'honneur au déshonneur.
Vous voulez dire qu'il y a des invariants ?
Je ne sais pas si ce sont des invariants, mais il y a des choses qui ont des conséquences, en fait. Des conséquences qui traversent les générations et auxquelles on n'est pas forcément préparé. C'est-à-dire qu'on reçoit des choses quand on est enfant. Une fois, je pense à un camarade comme ça qui me parle de son bébé. Il m'explique son bébé. Il est vierge de tout péché, de toute erreur, de tout. Je dis mais non, c'est pas vrai. Il est dépositaire. Il a déjà
une histoire.
Il a déjà une histoire. Ouais. Notre histoire, elle a commencé avant nous, quoi. Et c'est un peu ça. J'ai essayé de comprendre un petit peu ça, d'essayer de.
Alors vous parlez de ce qui vous précède, mais si c'est mathématique, comment on se sauve?
Ben c'est bien la question. Pour moi, la question, c'est comment l'émancipation et la liberté est possible malgré ça. C'est-à-dire qu'on peut pas, pour moi, on peut pas opposer une quête de liberté et les contraintes qui font que cette quête, elle va être difficile. On peut pas les opposer. C'est-à-dire qu'on a tendance, quand on veut s'émanciper, on a tendance à mettre toutes ces choses-là sous le tapis en se disant « on s'en fout, on fait table rase et on y va ». Sauf qu'en réalité, on peut pas faire table rase. En réalité, pour faire table rase, il faut affronter la bête, quoi.
Et je me disais de la même manière que vous avez pu imaginer le passé en retraçant les fils qui sous-tendaient votre histoire, vous pourriez presque imaginer un avenir. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez? Parce que c'est vrai que si vous suivez ce fil généalogique, vous pouvez presque anticiper l'avenir aussi.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais
qu'est-ce qui fait qu'à un moment, un écrivain dans une famille arrive et fait basculer la table et qu'est-ce que ça provoque?
Vous savez, je crois que c'était Phil Prott, je crois qu'il disait lorsqu'un écrivain apparaît dans une famille, la famille est foutue. Bon bah voilà.
Ça y est, vous avez tout effacé.
Non, c'est pas ça, mais c'est que là où on peut pas, où je pourrais pas faire ça, c'est que pour le coup j'ai besoin d'éléments tangibles.
Il y a quand même besoin.
C'est-à-dire qu'il y a quand même, j'ai besoin d'une vieille légion d'honneur qui se promène quelque part, d'où ça vient. J'ai besoin de signaux comme ça qui créent une espèce de vibration du vide autour. Dire, mais elle vient d'où cette qu'est-ce qu'elle recouvre? Les photos, les histoires qui sont parcellaires, les choses qui se raccordent mal. Et parce que ça se raccorde mal, parce qu'il y a plein de trous, plein de lacunes, là, quelque chose peut se créer parce que ça ne.
Il faut qu'il y ait de la matière. Il faut qu'il y ait de la matière pour qu'il y ait des trous. Ouais. Pour vous, Violaine Lison, tout commence en 2014. Est-ce que vous pouvez nous raconter le point de départ de votre livre?
En 2014, un jour, j'ai un collègue et ami qui me confie comme ça, en plein milieu d'une salle de classe, des carnets de tranchées de quelqu'un de sa famille, de son parrain. Et donc, il me donne ça, il me dit, voilà, ça traîne chez moi. Est-ce que tu prends
le hasard? Et pourquoi vous avez pris
le hasard? J'ai du mal à dire ça aujourd'hui. Mais pourquoi j'ai pris? Parce que ça vibrait, justement. Je pense que des objets pareils, tout de suite, il y a quelque chose sur ces carnets.
Mais les vibrations, il faut les ressentir. Donc quand vous dites le hasard, j'ai du mal à y croire aujourd'hui.
Oui, j'ai du mal parce que bon, ça fait 12 ans que ces carnets. Que Léonce, Paul et Herman vivent chez moi, et donc avec ces objets, ces carnets, et que j'ai aussi besoin, ils sont là, quoi, matériellement. Et donc, quand je les reçois dans mes mains, il y a quelque chose qui se passe.
Et qu'est-ce qui fait que chez vous, ça prend? Que c'est peut-être qu'il aurait proposé un autre écrivain, une autre romancière, la réponse aurait été non.
Peut-être, oui. Alors moi, je ne sais pas répondre à ça, mais les onze peut-être, enfin en tout cas, eux peuvent peut-être répondre, les morts là au-dessus, mais en tout cas, moi je sens tout de suite que ça, quelque chose se passe, quoi. Et donc quand je rentre chez moi, je me précipite pour déchiffrer, pour retranscrire, et puis l'aventure. Et puis c'est parti tout de suite parce qu'à travers les mots, il y a cette écriture est très, très belle.
Ça vous a tenu 12 ans?
Alors ça m'a, enfin oui, 10 ans, ça 10 ans a cheminé d'écriture. 12 ans. Il y a une année de retranscription et puis il y a eu des petites approches de temps en temps. Comme je suis enseignante, j'ai mis mes élèves sur scène avec les textes, des petits essais comme ça. Et puis il y a 3 ans, là, je me suis dit bon là, je fais quelque chose. Mais ça fait 12 ans que je sais.
Mais ce qui est fou, c'est que c'est pas votre famille. C'est pour ça que je vous pose la question.
Non, enfin c'est de ma famille.
Oui, voilà.
C'est de ma famille maintenant.
Il y a un point commun entre vos deux livres, qui est pas un point commun très très joyeux, mais quand même. J'aimerais qu'on en parle, c'est la honte. Je pense notamment à Marguerite, chez vous, Laurent Mauvigné, tondue à la libération devant son fils, votre père, et vous avez cette phrase qui me bouleverse. Il a eu peur, lui, si petit, et pourtant il y est allé, et je ne sais pas si elle a pu l'apercevoir ou l'entendre, je veux croire que non, je veux croire qu'il aura été récupéré avant, par n'importe qui ayant un peu l'intelligence et le cœur de sauver ce pauvre petit papa de 7 ans, d'un désastre dont pas une seule fois je ne l'ai entendu parler, mais sur lequel il a dû construire toute sa vie, et déjà probablement une partie de sa mort. Chez vous, Violaine Lison, il y a la honte d'aimer, non pas l'ennemi, le boche, mais l'amour entre deux hommes. Et je me disais qu'entre la honte d'aimer, la honte d'être humilié, la honte héritée, il y a une question qui m'est venue, est-ce que c'est un sentiment particulièrement difficile à écrire, Laurent Mauvigné?
Je sais pas, il y a tellement de choses difficiles à écrire que je sais pas en fait si c'est...
Qu'est-ce qu'elle provoque, cette honte dans les familles?
Elle provoque beaucoup de non-dits, beaucoup de silence, beaucoup de ressentiment aussi. Et une espèce de colère rentrée, beaucoup de choses là peut-être qui réclament une forme de réparation peut-être, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de fondateur, il y a quelque chose de dans la honte. Je pense que c'est quand même quelque chose qui a traversé le XXe siècle de manière très très particulière. Et on n'a pas fini, je pense, de se poser la question de comment la honte au XXe siècle est le terreau d'énormément de mouvements sociaux, de changements dans les comportements des uns et des autres, et je pense que ça, malheureusement, les hontes familiales se transmettent assez bien.
Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que vous intervenez dans le livre à plusieurs reprises pour souligner justement ce qui aurait parfois dû faire honte et n'a pas fait honte, et comment les hontes, elles se déplacent.
Ouais. Oui, parce qu'il y a ça aussi. C'est vrai qu'on parle toujours des hontes éprouvées, etc. Puis parfois, il y a des moments où il y a des gens qui se comportent de manière totalement ignoble et qui, alors, pas du tout, sans problème. Et ça, moi, ça me sidère d'autant plus. Et surtout qu'il n'est pas dit que leurs témoins, que leurs propres enfants, eux, n'héritent pas d'une honte dont les parents auraient dû avoir la charge.
Oui, c'est intéressant, oui.
Ça, c'est des choses qui sont toujours... forte, quoi, et intrigante. Moi, je sais pas ce qu'on fait de ça, en fait.
Violaine Lison, qu'est-ce qu'on en fait?
Moi, il y a cette histoire entre ces deux soldats, donc entre Léonce et Herman, qui vivent une histoire vraiment en pleine guerre. Ils ont 20 ans, hein, donc... mais eux n'éprouvent pas de honte, en fait. Et ça, moi, j'en suis... Mais c'est un bonheur, en fait, de voir comment ces deux jeunes...
Et c'est pas eux qui éprouvent la honte. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est presque en... c'est dans la retranscription.
Bien sûr, il n'y a aucun moment où Léon se sent honteux. Pourtant, il est fils d'un petit agriculteur. Il est quand même séministe. Il se destine à être jamais.
Ils se sont rencontrés au séminaire.
Oui. C'est génial, en fait. C'est jubilatoire. Enfin, moi, ça me rend heureuse.
Ah, oui.
Par contre, après, la honte, oui, elle intervient peut-être plus tard, mais. Peut-être, je pense que les familles même étaient... C'est très beau, en fait, ce qui se passe entre ces deux familles.
Oui, parce qu'elles se sont passées, finalement.
Oui, elles se sont rencontrées. Et je pense que si Léonce avait vécu, ils auraient... Enfin, ça aurait eu lieu. Cette histoire aurait continué. Ils auraient vécu, je pense, ensemble, Léonce et Herman. Et puis après, la honte, elle vient plus par rapport à l'autre et au regard de Paul, qui se dit, je dois retranscrire ça, je dois faire un héros.
Et qui n'ose pas.
qui n'ose pas. Alors moi, je me pose beaucoup de questions. Je lui en ai voulu parfois, lui.
Un c'est petit ce que peu, vous écrivez.
Mais après,
ouais.
je lui parle dans mon livre. Je leur parle. Mais je lui en ai voulu et en même temps, il y a aussi toute cette pudeur aussi quand il retranscrit de se dire est-ce que. Enfin, moi, je me mets un peu à sa place et j'ai éprouvé ce sentiment de me dire est-ce que toi, tu peux t'emparer de cette intimité quand même. Mais il y a quand même cette. Après, oui. Après, il y a le regard de l'autre. De la. Ben, voilà. Après la guerre, il faut faire des héros quand même aussi. On va pas commencer à parler de. Donc on va en effacer le désespoir, on va effacer l'envie de mourir, on va effacer cette relation
entre deux
hommes, quoi, trop sensible, trop sensible.
Violaine Lison, Laurent Mauvigné, on revient dans un instant. On entrera plus en détail dans vos livres, mais d'abord on écoute PR2B avec un titre de circonstance, Amnésie.
Est-ce qu'il y a des gens qui savent comment oublier? Rien ne se perd dans ma mémoire, mon présent passé. C'est comme si j'avais au cœur un siècle de bonheur. Comme tout appris par cœur, c'est fou, c'est beau et ça fait peur. Retiens tout et même ce qui ne compte pas. Tous les mots qui me viennent ont été dits déjà. J'aimerais qu'une fois cesse cet air de déjà-vu. Même mon premier amour, je l'ai déjà connu. Rien d'inattendu. Est-ce qu'il y a des gens qui savent comment oublier? Rien ne se perd dans ma mémoire, ma réalité. C'est comme si j'avais au corps les vivants et les morts, comme un dedans dehors. C'est fou, c'est beau et un peu trop fort. Des gens qui savent comment oublier. Rien ne se perd dans ma mémoire, rien n'est effacé. C'est comme un mot qui se danse, ton chiffre porte bonheur, comme un numéro en absence, le dernier code avant l'ascenseur.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. Nous sommes toujours en compagnie de l'autrice belge Violaine Lison et du prix Goncourt 2025 Laurent Mauvigné. Et j'ai le plaisir d'accueillir notre libraire du jour, Sandrine Babu. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Vous travaillez à la librairie L'Instant à Paris. Vous êtes en studio avec nous et vous aviez très envie d'ajouter votre voix au flot d'éloges unanimes.
Oui, allez.
Qui entourent le livre de Laurent Mauvigné.
Je ne vais pas m'inscrire en faux. Donc Laurent Mauvigné, dans La Maison Vide, vous réussissez à rendre compte d'une histoire familiale, à donner vie à votre aïeule, Marie-Ernestine, et à ses descendants, à nous emmener au cœur du XXe siècle et de ses guerres, qui ont imprimé leur marque tragique sur toutes ces femmes et tous ces hommes, et sur plus de 750 pages, sans jamais nous lasser. Ça, c'est vraiment du grand art. C'est une enquête familiale aussi, une fresque incroyablement dense et immersive, donc en particulier sur la place des femmes à cette époque, ces femmes à qui vous donnez la parole. Et c'est surtout un livre qui a un supplément d'âme et qui m'a profondément émue et que j'ai dévoré.
Et ce que vous avez aimé, surtout Sandrine, c'est, comme beaucoup de lecteurs, la langue de Laurent Baudouin.
Oui, la langue. J'ai essayé de dire comment je pourrais la définir, donc je n'ai pas vraiment réussi. Pour moi, elle est à la fois classique et complètement moderne. Elle ne cède jamais à la facilité, et ça c'est quand même très très fort. Vous avez le talent de nous rendre vivants et palpables les situations, les objets, les lieux. Alors, on pense, j'ai pensé aussi à, j'ai pensé à Balzac, j'ai pensé à Proust parfois, parce qu'il y a des phrases assez longues, mais j'ai surtout retrouvé le style Mauvigné, en fait, hein, tout simplement, avec ces circonvolutions qui font avancer l'histoire en éclairant le récit sous différents angles. Votre écriture, elle explore, elle enveloppe, elle appuie, elle souligne, elle sinue, et sans jamais écraser les personnages, et elle fait surgir l'émotion. Donc moi j'aime le regard que vous portez sur vos personnages, sans les juger, qu'ils soient aimables ou non. Vous leur donnez une parole, une existence, une épaisseur. Et comme vous l'écrivez, chaque génération invente son présent et se croit libérée de la tutelle des anciens. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Et on se demande ce qu'on garde en nous de ceux qui nous ont précédés. Alors pour ceux que cet écrasant prix Goncourt fait parfois hésiter, parce que certains... parfois, on a la réaction inverse, en disant « Non, c'est le Goncourt, je ne sais pas si je veux le lire. »
C'est vrai, en librairie, vous avez ces réactions-là?
Ah oui, ça arrive. C'est ceux qui sont un peu dans la contradiction, en disant « Non, mais moi, je ne lis pas forcément les Goncourt. »
Et pourquoi? C'est quoi
parce que, comme tout le monde le lit, ils ne veulent pas le lire.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Ça... Bon. Et donc, moi, je dis « Surtout, lisez-le, parce que c'est un très, très grand Goncourt. »
Et Sandrine, vous aviez une question, même deux.
J'ai même deux questions.
Allez-y.
Alors la première, c'est qu'en fait, j'ai remarqué que vos livres prenaient de plus en plus d'ampleur au fil du temps. Le premier, si je ne me trompe pas, en 99, Loin d'eux, faisait 128 pages. Comment expliquez-vous cette évolution? Est-ce qu'elle est irréversible ou est-ce que vous voulez revenir parfois à des textes plus courts? Comment, est-ce que vous avez une explication ou pas d'ailleurs?
J'ai plusieurs explications, mais je ne serais pas contre un livre court. J'ai fait quand même un livre très court, j'ai fait un livre de 60 pages quand même, que j'appelle Oubli, qui était très court. Non, ça s'impose un peu comme ça, mais ça fait déjà un petit moment que les livres ont eu tendance à prendre... Mais je ne sais pas, peut-être parce que j'ai besoin d'espace, et puis parce que quand je me lance dans une phrase, j'ai toujours l'impression que, comme je vais rater ma cible, j'ai besoin de passer par plein de détours. Disons que j'ai l'impression de chercher ce que j'écris en l'écrivant,
d'accord,
en fait. Donc ça prend de la
plus
place.
Plus de pages.
Voilà,
c'est la question que j'allais vous poser. Vous écrivez d'un jet, ces phrases-là, ou est-ce que vous retravaillez énormément?
Enfin, il y a un jet, comme ça, et puis après, je reviens dessus. Ça a tendance, pour le coup, à grossir de plus en plus. Et puis après, une fois que une première version du livre est terminée, là, je prends vraiment plusieurs mois pour dégraisser. Et là, après, j'enlève beaucoup. Mais c'est vraiment... J'enlève pas de scène, j'enlève jamais de scène, quoi que ce soit. Mais dans la phrase, là, j'ai l'impression de décoper comme ça pour arriver à...
Donc voilà, le livre, il faisait combien? Il était beaucoup
Je sais pas, 1200 pages peut-être.
Mais quand même.
Ouais, oui, c'est un petit peu gros. Alors du coup, je l'ai... Parce que justement, il faut qu'à la fin, 750 pages, il faut que le lecteur il ait envie de faire le trajet avec vous et qu'il ne se dise pas au milieu de la route, mon Dieu, que je m'ennuie, ou que c'est lourd, ou que c'est long.
Non, et vous avez besoin du regard de votre éditeur à quel moment? À cette étape-là ou plus tard?
Non, plutôt à cette... Enfin, il faut que j'ai fini une première version. Ça, je ne peux pas avant... Puis en plus, je suis superstitieux. Je n'aime pas parler des livres que je n'ai pas écrits et j'aime pas parler quand je suis au milieu de... Puis d'ailleurs, c'est le seul moment où ça m'appartient vraiment. Donc il faut que je suis en travail avec mon livre et voilà. Mais une fois que j'ai une version, là, ouais, j'ai besoin d'un retour...
D'un autre regard.
D'un autre regard, et c'est vrai que celui de l'éditeur est très bien à ce moment-là.
Thomas Simonet,
exactement.
On le salue. Sandrine, vous aviez une autre question.
Et j'avais une autre question. Je me demandais pourquoi ce livre porte sur votre histoire familiale, à ce moment de votre vie et de votre œuvre littéraire, à plus de 12 livres. Alors peut-être que ceux d'avant parlaient aussi de vous, mais on le sait moins. Qu'est-ce qui fait que c'est maintenant que cette histoire familiale remonte à la surface?
Je sais pas vraiment pourquoi maintenant ? Alors, il y a des choses que je peux savoir, à savoir par exemple que techniquement, il y a des moments, je dirais avant Des Hommes, ou, donc il y a 15 ans, techniquement, j'aurais pas su le faire, tout simplement. Ouais. Et au fur et à mesure, j'ai l'impression d'acquérir une plus grande souplesse, une plus grande... Je commence à être pas trop mauvais pianiste, je me dis. Je commence à faire mes gammes, à force de faire mes gammes tous les jours. Je me dis, bon, maintenant, je pense que je peux à peu près me lancer dans ça. Puis j'avais très peur parce que la guerre 14-18 ou des choses comme ça, ça a tellement été fait et refait dans la littérature. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais aller rajouter mon grain de sel sur ça ? J'ai rien de spécial, de plus intéressant que les autres à dire. Et puis en plus, comme ils l'ont dit très bien, ça va être compliqué. Donc il y avait ça. Et puis il y a une raison peut-être plus intime, c'est que ce livre, il est quand même construit à partir de souvenirs, de récits entendus dans l'enfance, mais qui me sont tellement intimes et sur lesquels je me suis tellement construit que je pense que pendant des années, j'avais peur que, en écrivant ce livre, je me disais, mais qu'est-ce qui va me rester à moi après ? Et je ne le sais pas encore, ça. Mais voilà, mais à un moment, il faut y aller.
Et peut-être aussi par égard à votre famille ?
Oui, mais la famille, c'est compliqué parce que il y a un moment,
on a parlé de Philippe Roth, donc on sait que c'est fini.
Voilà, c'est ça. Non, c'est vrai qu'à un moment, malgré tout, il faut y aller. Ce qui est dans cette question-là, ce qui est toujours très difficile, c'est la peur de blesser des gens. Ça, c'est quelque chose qui me terrorise. Et je sais que là, j'ai blessé des gens. Et à chaque fois, j'essaie de me répondre en excuse parce que vraiment, c'est pas quelque chose que je fais volontairement. Mais en même temps, il y a quelque chose qui fait qu'à un moment, je peux pas renoncer à un livre pour ça. C'est pas possible.
C'est inévitable de toute façon.
Il y a un moment, c'est inévitable.
Jolène Lison, vous y avez pensé à ça aussi ?
Oui, d'abord d'être en respect par rapport à Léonce. C'était ma priorité quand même. C'était que. Voilà, de quel droit j'allais écrire quelque chose sur lui.
Mais est-ce que c'est pas bon signe quand finalement on se pose la question de la limite,
enfin, si, bien sûr,
effectivement, un livre il doit un peu déranger.
Oui, il doit déranger. Alors après, bon, ici le propos, c'est, enfin voilà, j'ai reçu Léonce et ses carnets chez moi. Il est mort à 25 ans. Il écrit. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a une force et une puissance immense, qui a aussi ses zones d'ombre, etc. Mais moi, je voulais qu'il vienne dans la lumière. Je me suis plus posé la question du respect dans la pudeur, moi, par rapport à Léonce. Par contre, par rapport aux familles, moi,
vous je n'avais
pas trop posé de questions, parce que si c'était juste par rapport à ces trois morts, donc Paul, Herman et Léonce, je me sentais là, bien.
Libre.
Libre, oui.
Laurent Mouvignier parlait il y a quelques instants de faire ses gammes tous les jours. Je reste sur cette expression. Jeanne Lison, Laurent Mouvignier, on se retrouve dans quelques instants. On parlera justement de vos techniques d'écriture à chacun.
Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les pas des passants, l'éternelle litanie des feuilles mortes dans le vent qui pousse un dernier cri, cri mon enfant. Si tu aimes les éclaircies, mon enfant, prendre un bain de minuit dans le grand océan. Si tu aimes la mauvaise vie, ton reflet dans les temps. Si tu veux tes amis près de toi tout le temps. Si tu pries quand la nuit tombe, mon enfant, si tu ne fleuris pas les tombes, mes chéris les absents. Si tu as peur de la bombe et du ciel trop grand. Si tu parles à ton ombre de temps en temps. Si tu aimes la marée basse, mon enfant, le soleil sur la terrasse et la lune sous le vent. Si l'on perd souvent ta trace dès qu'arrive le printemps. Si la vie te dépasse, passe mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec
ou plutôt sans. Si tu oublies les prénoms, les adresses et les âges, mais presque jamais le son d'une voix, un visage. Si tu aimes ce qui est bon, si tu vois des mirages, si tu préfères Paris quand vient l'orage, si tu aimes les goûts amers et les hivers tout blancs, si tu aimes les derniers vers et les mystères troublants, si tu aimes sentir la terre et jaillir le volcan, si tu as peur du vide, vide mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage, et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Si tu aimes partir avant, mon enfant, avant que l'autre s'éveille, avant qu'il te laisse son plan. Si tu as peur du sommeil et que passe le temps, si tu aimes l'automne vermeil, merveille, rouge sang. Si tu as peur de la foule, mais supporte les gens. Si tes idéaux s'écroulent le soir de tes 20 ans, et si tout se déroule jamais comme dans tes plans. Si tu n'es qu'une pierre qui roule, roule mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage, et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. C'était Benjamin Biolay, Ton héritage, et nous sommes toujours en compagnie de l'autrice belge Violaine Lison et de l'écrivain français Goncourt 2025, Laurent Mauvigné.
France Inter, Radio-Canada, RTS La Première, RTBF La Première, Au Livre, etc. Lilia Hassen.
Laurent Mauvigné, on parlait tout à l'heure de vos œuvres précédentes. Il y a quand même une nouveauté dans La Maison Vide, c'est le surgissement du jeu, de la première personne. Comment cette première personne a surgi et pourquoi ?
Ah bah, c'est un peu long à expliquer parce qu'en fait, il y a des questions, j'allais dire, d'ordre un peu technique, qui étaient qu'à partir du moment où je me suis aperçu que ça partait un peu, pas dans tous les sens, mais enfin, qu'il y aurait plusieurs générations, que ça serait un petit peu compliqué dans la... J'ai eu besoin d'une sorte de point d'ancrage. Alors j'avais la maison, certes, mais ça ne me suffisait pas complètement. Donc je me suis dit, mais je vais toujours ramener le récit à partir de l'endroit d'où je parle. Donc le jeu s'est un petit peu imposé comme ça. Genre bon. Et puis au fur et à mesure, il est lui-même devenu un personnage, en fait. Donc, ce jeu auquel on m'associe volontiers, parce qu'on pense tout de suite à l'autofiction, oui, etc., bah, en fait, est peut-être plus fictionnel qu'auto, en fait.
Oui, c'est vraiment un narrateur au sens...
Oui, c'est beau. Ouais.
Au sens même proustien, pour le coup.
Oui, mais c'est vrai que ça fait tellement... Ça fait beaucoup ça fait quand même des années qu'on oppose comme ça l'autofiction et la fiction. Et moi, pour le coup... J'écris que des romans jusqu'à aujourd'hui. Et il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment dans l'autofiction, c'est ce pouvoir de conviction que ça a, qui est quand même une capacité à produire un effet de réel incroyable. C'est-à-dire que personne ne met jamais en doute ce jeu. Et alors ça, je me dis, ils sont vraiment forts, parce qu'aucun romancier n'arrive à faire ça. Donc je me dis, on peut aussi intégrer cette façon de penser le monde, comme ça. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui m'intéressait aussi, d'explorer un petit peu cette dimension-là. D'autant qu'après, il y a cette caisse de résonance, pour moi, de récits que j'ai entendu enfant, mais comme entendent les enfants, c'est-à-dire avec une espèce de conviction et de quand un enfant entend une histoire, il la vit, il l'éprouve, il se contente pas d'entendre comme nous, adultes, on entend une histoire, on a notre sens critique, etc. Un enfant, il la vit. Et donc, moi, ces histoires, j'ai la sensation de les avoir un peu vécues d'une certaine manière. En tout cas, elles se sont vraiment imprimées en moi de manière très, très durable, quoi.
Oui, c'est donc aussi la question de la mémoire qui sous-tend tout ça. Effectivement, entre l'autofiction et la fiction pure, ce qui est vrai ou pas, c'est tout est mélangé le temps. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se débarrasser en littérature, on sait ce que ça vaut, mais est-ce que vous avez pensé à vous débarrasser de tout ce qui était trop sentimental, par exemple? Est-ce que le sentimentalisme, c'est un ennemi? Où est la frontière entre l'émotion, le sentimental?
Ah ben ça, c'est super compliqué, la question. Moi, au départ, quand j'étais jeune, je fais les Beaux-Arts, je venais d'un milieu plutôt expérimentaux, et donc sentimentalisme, alors évidemment, c'est pas possible, ça c'est pas cible de la chaise électrique, mais les personnages aussi, etc. Donc, moi, je me suis réapproprié un peu, dans toute ma vie d'écrivain, j'essayais de me réapproprier des choses avec lesquelles j'avais quand même une sensation d'interdit, donc l'impression de mal faire, qui est quand même une impression quand même assez jouissive.
Assez jouissive, oui.
Et je ne suis pas du tout d'accord avec Gide sur cette histoire...
Des bons sentiments.
Qu'on ne fait pas de bonne littérature avec des bons sentiments. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que je pense qu'un bon écrivain, il fait de la bonne littérature avec tout, y compris avec les mauvais sentiments, avec les bons sentiments, avec n'importe quoi. Mais c'est vrai que c'est un pari qui est très difficile.
Julien Nison, vous, votre pari, c'était celui de la polyphonie.
Alors oui, après ça s'est imposé. En fait, dans mes 12 ans de cheminement, je me suis posé beaucoup de questions sur comment raconter l'histoire de Léonce. Et finalement, c'est en dialogue avec lui que ça s'est passé. C'est vraiment un texte qu'on a écrit ensemble. il était là sur mon bureau avec ses objets. Enfin voilà, il m'a vraiment participé à l'écriture, ses photos. Enfin, et son nom, il est juste en dessous du mien, sur la couverture. Et donc c'est vrai qu'il y a il y a une partie de narration, c'est-à-dire que j'essaie de raconter cette histoire, enfin en tout cas de cette enquête, parce qu'il y a une part d'enquête dans tout ce qui s'est passé, mais il y a aussi tout un dialogue entre lui et moi, des questions que je lui pose à lui, mais aussi à Paul, à Herman.
En parlant du dialogue, j'aimerais que vous nous lisiez un passage de votre livre, parce que vous avez recours aussi au tutoiement.
Oui.
Donc je vous laisse lire ce passage.
Le 23 novembre à 13h30, le capitaine te l'annonce. Shields est blessé. Tu cours, Léonce, instinctivement. Tu te mets à courir les 20 minutes qui te séparent de lui. Sur place, tu ne le trouves pas. Il a été emmené à l'hôpital. Son équipement gît par terre. Son sang a recouvert la brique. Tu n'as pas trouvé Herman. Il s'est blessé accidentellement en démontant une fusée qui a explosé dans ses mains. L'index et le pouce droit sont sectionnés. Tu n'as pas pu lui dire au revoir, l'embrasser, le serrer dans tes bras. Il est parti, c'est fini. Tu es atterré, foudroyé. Ce soir... Je ne sais plus pourquoi je suis un homme. Je garde son empreinte sur mon cœur en morceaux. Je suis veuf, je suis seul. Les mots que tu écris ce jour-là dans ton journal, Léonce, sont traversés de sanglots. À partir de ce jour de déchirure, Léonce va s'enfoncer dans le chagrin. Du 26 décembre 1917 au 26 janvier 1918. Rien dans les pages recopiées par l'ami Paul. Pas un mot. Une éclipse totale de 32 jours. Léonce, je vais suivre la loi de Paul. Pour être plus près de ton cœur, brisé, m'en remettre au silence. Une page blanche, pour recevoir tes sanglots.
Merci, j'aime beaucoup ce passage. On voit le glissement justement du tutoiement au moment où vous reprenez votre voix de narratrice. Ce tutoiement, il est venu naturellement, vous l'avez laissé faire.
Oui, naturellement. C'était évident, en fait.
Vous dites qu'il était à côté de vous pendant l'écriture. Et finalement, il y a eu plein de choses assez magiques aussi liées à ce livre. Ça renvoie à toute la dimension aussi presque médium de la littérature. Quand on fait appel aux anciens, en fait, ils arrivent. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une anecdote, notamment, avec une autre romancière. J'aimerais que vous nous racontiez, parce que c'est fou.
Oui, c'est ça. Depuis la parution... moi, je pensais en écrivant ce livre, après 12 ans, que ce serait la fin de quelque chose, et en fait, absolument pas. y a tout qui tout se déploie. Et en fait, il s'est passé quelque chose avec Bérénice Picha, qui a écrit La Petite Bonne.
La Petite Bonne.
Voilà.
Aux éditions Les Avrils.
Aux éditions d'avril. Les Avrils. Et en fait, il y a un mois et demi, je suis allée dans une librairie à Liège, qui s'appelle L'Escale. Et il se fait que Bérénice Picha est allée un mois après moi dans cette librairie, mais on ne se connaissait pas, Bérénice et moi, absolument pas. Et la libraire, qui s'appelle Pascal, le jour où Bérénice Picha est venue dans sa librairie, a offert mon livre à Bérénice. Et ce jour-là, la libraire m'envoie un mail le soir, je rentre chez moi, c'était, je me souviens, le jour où j'étais allée sur la tombe de Léon recevoir un nouveau carnet. Enfin, c'était déjà très, 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 très incroyable ce qui m'arrivait ce jour-là, c'était le jour d'Halloween. Je rentre chez moi, je tombe sur un mail d'Anne Pascal, la libraire, qui me dit « Je viens de donner ton livre à Bérénice Picha » et il se fait que je viens de me rendre compte que Bérénice Picha habite au Havre. Et le Havre est très important dans mon livre, puisque la famille d'Hermann habite au Havre, hein, donc c'est
l'amoureux de Léon
là-bas, hein. Et donc Léonce a pu, grâce à Hermann, retrouver une maison, parce que lui, il n'a jamais retrouvé sa maison pendant la guerre. Et donc cette maison, c'est au Havre, à la rue Le Sieur. Et donc moi, pendant 12 ans, j'ai été voir cette maison sur Maps pour voir quelle était cette maison située rue Le Sieur. Et en fait, quand je me rends compte que Bérénice Picha habite au Havre, je me dis je vais aller voir au Havre s'il n'y a pas une librairie où je pourrais aller voir. Il se fait qu'il y a une librairie dans la rue Le Sieur. Déjà, je me dis oh, ça c'est déjà pas mal. Tout près de la maison d'Hermann. J'envoie un message comme ça, au hasard, à Bérénice Picha via les réseaux, et je lui dis est-ce que tu connais cette petite librairie rue Le Sieur, parce que comme tu le sais sans doute, dans le livre que tu viens de recevoir, la rue Le Sieur est importante, au 89, etc. Et puis je termine mon message, et puis une heure après, je reçois un message de Bérénice Picha qui était quasi en larmes et qui me dit « Mais Violaine, j'habite au 89 rue Le Sieur. J'habite la maison de ton livre. Voilà. J'habite dans la maison d'Hermann. C'est moi qui habite cette maison. »
Voilà, ce qui prouve bien que les morts sont, nous parlent encore et ils jouent peut-être un peu avec nous.
Ils nous emmènent là où ils veulent.
Violaine Lison, on a par téléphone une de vos compatriotes belges, une libraire justement. La libraire Sandra Mangoubi de la librairie À la Page d'Après à Louvain-la-Neuve. Sandra Mangoubi, bonjour.
Bonjour.
Je crois que vous avez pris beaucoup de plaisir à lire le livre de Violaine Lison.
Oui, énormément. Alors, chère Violaine Lison, on dit rarement que les morts peuvent nous rendre heureux. Et pourtant, je ne pense pas me tromper en affirmant que Léonce vous a rendue heureuse, tout comme la lecture de votre livre m'a rendue heureuse. Et tout comme il rendra heureux, c'est déjà nombreux lecteurs et tout ce à venir. Alors bien sûr, il y a la guerre et ses horreurs, parce qu'au fond, un des grands thèmes de votre récit reste « Comment fait-on à 20 ans pour tenir et survivre dans la peur, le sang et les horreurs d'une guerre ?» Les ressentis de Léonce et vos mises en lumière m'ont bouleversée, d'autant plus dans le contexte actuel, et en cela aussi Léonce est notre contemporain et nous parle encore. Mais au-delà du bruit et de la fureur, la beauté est toujours là. Et Léonce y est accroché comme on s'accroche aux arbres. Cette beauté, il la trouve dans sa foi, dans la nature face à laquelle il ne cesse de s'émerveiller, et bien sûr dans l'amour, dans cette ardente amitié qui le lie à Hermann. Et quelle plume magnifique il a pu exprimer et transmettre toutes ses émotions.
Et dans ce livre qui est à la fois une enquête et une déclaration d'amour, vous avez aimé, Sandra, la métaphore du tissage d'une époque à l'autre, d'une forme d'écriture à l'autre.
Mais oui, tout à fait. J'ai été très touchée et fascinée par la façon dont votre écriture, Violaine, a pris le relais de celle de Léonce pour transmettre et garder Léonce vivant. Vous avez brodé vos mots aussi en harmonie. Vous avez reprisé patiemment les mailles perdues pour faire réapparaître la beauté des motifs d'une vie, à tel point que vos destins et vos textes à tous deux sont maintenant, je pense, irrémédiablement mêlés. La Grande Guerre nous a fait perdre un homme qui aurait pu devenir un très grand poète, je pense. Mais ces carnets nous ont fait gagner une écrivaine éblouissante. Alors oui, chère Violaine, les morts peuvent rendre heureux.
Merci Sandra, vous aviez une question pour Violaine Lison.
Oui, alors, notre compatriote Vinciane Desprez, dans son remarquable essai « Au bonheur des morts », explique la manière dont les morts entrent dans la vie des vivants, comment ils les font agir en les transformant, et là je vais reprendre ces mots, en fabricateurs de récits, mais aussi comment les morts déclenchent et là aussi sont ces mots, un réseau de relations. Et là, vous avez évoqué l'incroyable lien avec Bérénice Pichat.
Une coïncidence.
On est en plein dedans. Alors, à la fin de votre livre, vous remerciez d'ailleurs une de vos amies qui vous a conseillé la lecture de l'essai de Vinciane Desprez. Et elle vous dit, en vous le conseillant, « À mort n'entre pas dans nos vies par hasard ». Alors, à votre avis, chère Violaine, pourquoi Léon s'est-il entré dans votre vie ?
Vertige. Alors, Léon est entré dans ma vie. Alors, je me pose beaucoup de questions maintenant, surtout après l'apparition de ce livre, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je pense que, enfin, après, c'est moi, en tout cas, ce que j'ai reçu et ce que j'ai voulu faire et ce que j'ai reçu comme message à ce moment-là, c'était ma volonté, c'était de le rassembler lui, de lui permettre d'être vivant encore, d'être dans la lumière, d'avoir de la voix encore, parce que c'est quelqu'un d'incroyable et un écrivain aussi comme vous l'avez dit incroyable. Après ça ce livre permet aussi de rassembler la famille, parce que j'ai retrouvé des descendants encore qui m'ont donné d'autres carnets, d'autres albums photos, et donc il y a des choses qui se font là, même autour de sa tombe.
En fait, vous avez trouvé une famille.
Oui, oui, plusieurs même, oui, c'est ça, et on s'en crée une là avec lui, bien sûr, ouais, c'est assez passionnant, et une famille aussi avec Bérénice Pichat, avec tous ces gens qui sont autour.
On se retrouve dans quelques instants, mais d'abord on écoute Kerenan, Que la vie est belle.
Si tu regrettes la chaude lueur du vin, les feuilles mortes entre tes larmes de poète. Mais que la vie est belle, est-ce que tu t'en rappelles? Parfois quand tu te révèles, que la vie est belle, bien que surréelle. Tu t'en rappelles?
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission, etc. Nous sommes toujours en compagnie de l'autrice Violaine Lison et de Laurent Mauvignier, prix Goncourt 2025.
Au livre, etc. Lilia Hassen.
Je me disais, Laurent Mauvignier, maintenant on vous appelle Goncourt 2025, il y a un petit côté Beaujolais nouveau, non ?
Oui, c'est un peu ça.
Le Goncourt 2025. J'aimerais qu'on dise un mot de votre humour, justement, Laurent Mauvignier. On n'en parle pas énormément, mais on rit aussi beaucoup en vous lisant. Il y a un passage qui m'a vraiment amusée et qui arrive vers la fin du livre, quand on découvre l'adultère du commerçant Monsieur Claude, enfin quand sa femme le découvre. Je ne veux pas dévoiler la scène parce qu'il faut vraiment la lire, mais j'aimerais que vous nous lisiez ce qui se passe juste après.
D'accord. La suite avait été ridicule et pathétique, mais drôle aussi, toujours. Toujours infiniment drôle sont les moments les plus tragiques de la vie. On attend les claquements de mains, les rires. Tout ça se fait dans un déchirement de gorge qui s'étrangle quand la chambre s'ouvre et quand sortent tour à tour Monsieur Claude et Marguerite, tous les deux muets. D'ailleurs, plus personne ne sait quoi dire. Chacun laisse en lui la stupeur prendre toute sa place et comprend que leur vie vient de basculer à cause d'une suite de hasards ou d'un dieu auteur de pièces de boulevard dont il aimerait répéter les ficelles et les effets d'un siècle à l'autre. Avec autant de nouvelles victimes, mais toujours les mêmes recettes, ciel, mon mari, et la trahison, le sexe, l'amour, que sais-je. Ici, le vertige multiplié par le scandale qui ne manquera pas d'arriver, c'est sûr, alors qu'il aurait été si simple à éviter, comme très vite Lucien aura l'intelligence et le réflexe de le proposer, suggérant de rentrer chacun chez soi et de faire comme si de rien n'était, au moins pour ce soir. Il serait toujours temps de réfléchir aux conséquences pour chacun d'entre nous, aura-t-il dit. Mais ça aurait été trop simple, peut-être. Et même imaginer que le lendemain, on se retrouve chez les vêtements Claude face à des clients qui n'y verraient que du feu, parce qu'on serait capable de travailler en bonne entente ou en simulant l'entente ou le quotidien, que tout pourrait continuer comme tous les jours.
Et évidemment, tout ne va pas continuer comme tous les jours.
Non, mais moi, je suis content que vous me parliez de la question de l'humour, parce que... Alors, j'ai toujours fait ça dans mes livres, mais il y a toujours... Mais alors, c'est vrai que parfois, c'est tellement... Et puis c'est tellement noyé dans un monde qui n'est pas drôle que parfois les gens ne le voient pas ou s'interdisent. Je me souviens, ma première pièce de théâtre, par exemple, le théâtre pour moi est un espace où l'humour peut éclore beaucoup plus facilement que dans les romans. Et, mais je me souviens souvent, les spectateurs ont du mal à s'autoriser le rire parce qu'ils se disent « bon, Mauvignier, c'est pas marrant, alors... »
Oui, on n'a pas le droit de rire.
Alors que pourtant, ça fait partie de la vie comme tout le reste et moi, c'est très important pour moi.
Petite question qu'on a déjà dû vous poser 20 fois, mais peu importe. Est-ce que vous avez un projet en cours, un manuscrit, Laurent Mauvignier, est-ce que vous écrivez ? Vous avez le temps encore d'écrire tous les jours ?
Je travaille sur une pièce.
Ah, donc vous allez vous détendre un peu.
Ouais, mais j'adore le théâtre.
Ah, oui.
Et voilà, donc ça me fait rire aussi beaucoup. Et puis un projet de film, et puis j'ai des projets de romans. Non, j'ai plein de projets, j'ai plein de choses que j'essaie de noter un peu tous les jours. Ouais.
Vous n'avez pas plus beaucoup le temps, mais bon, ça
va. Non, mais je prends beaucoup le train, donc dans le train, on a le temps d'écrire un peu.
Et vous, Violaine Lison, prochain projet, est-ce que vous allez retrouver les autres carnets ?
Ah, là, je les ai plus ou moins retrouvés, donc je suis occupée de retranscrire.
Vous n'avez pas tous
tout ça, presque.
Ah, ça
en
y
fait,
est
ouais, ils sont occupés de revenir un peu à la fois. Mais je ne pense pas que je vais écrire là-dessus, non. Mais voilà, je suis encore plus dans un projet ici d'écriture d'un chœur à partir de. On parlait de caisse de résonance tout à l'heure. J'ai de femmes migrantes avec qui j'étais en lecture poétique ici à Paris. Et de leur voix, en fait, et de voir comment leur rendre de nouveau la voix, en fait. J'ai l'impression d'être un peu là-dedans.
C'est ça, votre
instant.
Mission.
Puis il y a un mort, là, qui m'appelle encore. voilà, donc, oui.
Violaine Lison, médium.
Oui, c'est ça.
Il faudra ouvrir un cabinet.
Appelez-moi.
Merci à tous les deux. Laurent Mauvignier, Violaine Lison, c'est la fin de cette émission. Je recommande vos livres. Violaine Lison, Lequel de nous portera l'autre, publié aux éditions Esperluette, un récit d'une grande justesse, né d'une enquête patiente qui permet de chercher et trouver la beauté là où on ne l'attend pas. Je recommande aussi votre roman, Laurent Mauvignier, La Maison Vide, publié aux éditions de Minuit. Un livre qui dit « je », mais qui parle de nous tous, de toutes les familles au fond, tant il interroge le poids des silences et la manière dont les passions, les traumatismes font écho à travers le temps. C'est magnifique, mais je ne suis pas la première à le dire. Merci enfin à nos libraires du jour, Sandra Mangoubi et Sandrine Babu, ainsi qu'à mon équipe, Lilian Allôme à la réalisation, Mathias Alléon à la technique, Estelle Gap et Ophélie Vivier à la programmation. Je rappelle qu'Olivre, etc. est une coproduction de la RTBF, la RTS et Radio-Canada. Quant à moi, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. On se retrouve samedi prochain pour une émission spéciale autour des contes et légendes du monde entier.